Voilà, alors on va reprendre là où on en était. Je crois qu'on en était à la bénédiction. On avait lu, je crois, la bénédiction d'Isaac à Jacob. On peut la relire en introduction. 27-27, Genèse 27-27. 28 exactement. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et des ressources de la terre, abondance de blé et de vin, que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudit, et béni soit celui qui te bénit. Donc, bénédiction à la fois dans sa profession, si on veut, hein, l'agriculture, pluie, fertilité, récolte, dans ses relations avec les autres, y compris avec ses frères, relations, donc supériorité de Jacob au niveau des gens qui l'entourent et même de ses frères. Et puis bénédiction étendue à ceux qui le bénissent, donc pas seulement lui, mais il sera en bénédiction aux autres et les gens qui le bénissent seront aussi bénis. C'est quand même assez important. Bénédiction assez forte, mais qui, à mon avis, va être encore plus détaillée juste avant qu'il parte. On avait dit que Jacob n'avait pas encore une relation très personnelle avec Dieu. Et on avait parlé donc des enfants dans les familles chrétiennes qui avaient, comme on dit tout, hein, le langage, les habitudes, le t-shirt et les enregistrements. Mais il prend part aux activités, mais il n'a pas encore une relation vraiment personnelle avec Dieu. Et je vous avais dit, c'est bien de prier en ce sens, parce que c'est important que chacun, jeune ou plus âgé, ait une relation personnelle avec Dieu, que ce ne soit pas simplement recopier ce qu'on a vu faire. Même si c'est très bien, ça ne suffit pas. Et il faut se mettre aussi à la place de Dieu, qui, imaginez-vous, a un cœur, et qui, je pense, vit assez mal et souffre de voir des gens copier un extérieur par rapport à lui, avoir quelque chose, une attitude extérieure, et puis un cœur vide. Il faut se mettre aussi à la place de Dieu. J'avais été très touchée par le témoignage de Colin Urquhart, qui avait l'habitude, dans un temps de réveil en Angleterre, d'aller tous les soirs en promenant son chien. Avant de dormir, il faisait faire un tour au chien, il s'arrêtait devant la chapelle, et avant de la fermer à clé pour la nuit, il se mettait à genoux et il priait. Il remerciait Dieu pour la journée. Il avait un petit temps personnel avec Dieu. Et puis un soir, il était tellement épuisé, ça débordait de partout, il avait un monde fou. C'était vraiment un temps de réveil, c'était il y a une trentaine d'années, je crois. Et il était très fatigué ce soir-là et il dit « Oh Seigneur, tu m'excuseras, mais je ne peux pas passer ces quelques minutes avec toi ce soir. Je suis vraiment épuisée. Je fais filer dans mon lit, je ferme la chapelle, je rentre le chien et on n'en parle plus. » Et il a vraiment dans son cœur senti le Seigneur qui lui disait « Ça va me manquer. » On ne pense jamais à ça. Hein. On pense toujours à nous. On est vraiment des bébés hein, par rapport à Dieu. On pense qu'à nous et Dieu qui lui faisait dire, mais ça va me manquer, parce qu'imaginez que Dieu a un cœur, et qu'il est content qu'on aille vers lui, qu'il se réjouit, et qu'il est content d'avoir cette relation avec nous. Et je pense que pour les jeunes, c'est aussi important, savoir que si vous cherchez à obtenir cette relation avec Dieu, c'est pas seulement pour vous, c'est que lui aussi, ça lui fait du bien. On peut faire du bien à Dieu. Alors là, c'est un concept, hein, mais c'est la réalité, c'est normal, il a un cœur. Et il souffre de nous voir distants. Il souffre de nous voir dans nos habits de routine et de coutumes et d'habitudes religieuses. Ce qu'il attend, c'est un cœur à cœur. Et je comprends qu'il ait pu dire à Colin Urquhart, « I will miss you, ça va me manquer. Tu vas me manquer ce soir. » Et du coup, il a craqué. Il est allé faire son petit temps à glorifier Dieu. Et comme il dit d'ailleurs, son chien était très, très religieux. Il se mettait à côté, il ne bougeait pas. Il n'y avait personne pour voir. Voilà, donc c'est important, cette relation personnelle avec Dieu qui va bien au-delà de ce que vous avez pu apprendre dans vos familles. C'est très bien, merci Seigneur pour ce qu'on a appris dans les familles, mais ça ne suffit pas. Alors la bénédiction, j'avais dit, je crois qu'elle ne va pas être magique. Vous voyez, d'un seul coup, là, il se retrouve béni dans son métier d'agriculteur, dans son élevage, béni dans ses relations, en bénédiction aussi aux autres peuples. Et puis, ça ne va pas tout à fait commencer comme ça. La bénédiction, elle n'est pas magique. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Ce n'est pas magique. On a notre part à faire. C'est comme quand on reçoit une promesse de Dieu, que ce soit par une prophétie ou par autre chose. C'est pas plutch et puis poudre de perlimpinpin. Non, il y a autre, en face, il y a notre attitude, notre réaction. Il y a le temps de formation. Même si notre réaction est bonne, il y a le temps de formation. Et là, les enfants, je crois que vous êtes mieux encore capables de le comprendre que les adultes, parce que vous êtes en plein dedans. Si vous voulez le métier de vos rêves, ben, il va falloir bosser encore quelques années, pauvre de vous. C'est pas drôle, la formation. L'école, les profs, tout ce temps de formation, on a l'impression, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est en, je le disais la semaine dernière, quand on est en troisième, en seconde, en première, on a l'impression qu'on n'en voit pas le bout, qu'on va être coincé là toute notre vie. C'est rigolo, on sait que ce n'est pas vrai, mais c'est le sentiment qu'on a. L'impression qu'on est coincé là à l'école pour le reste de notre vie. C'est horrible. Mais bon, c'est un temps de formation. Souvent, les adultes disent, vous entendez ça, c'est beau d'être jeune. Je voudrais les voir revenir. Ouais, enfin bon. Et alors, Jacob, il va récolter déjà son école. Ça va être de déjà récolter ce qu'il a semé. Et vous allez voir, c'est pas drôle. Il va devoir travailler. Il va devoir travailler pour un patron totalement injuste et trompeur, encore plus que lui. Et c'est seulement là qu'il reviendra et qu'il pourra devenir ce patriarche, quand on dit hein, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'est pas magique, la bénédiction. Après cette bénédiction d'Isaac, voilà Ésaü qui revient. Il revient et, curieusement, il ne va pas poser de questions à son père. Il doit être pressé, il rentre de la chasse avec ses bestioles. Il fonce à la cuisine et puis, sous la tente, là, hein, il fait son feu et il commence à cuisiner. Il prépare son gibier. Et puis, il réclame sa bénédiction. Alors là, c'est curieux. Parce qu'il semble qu'il a complètement oublié, et vous allez voir qu'en fait, il n'avait pas oublié. Donc c'est un drôle de zigoto quand même. Parce qu'il vient en disant, voilà ton fils premier-né. Il ne se souvient pas qu'il a prêté serment pour donner son droit d'aînesse. Ce n'est plus l'aîné. Légalement, ce n'est plus l'aîné. Mais il fait comme si ça n'avait jamais existé. Parce qu'en fait, il veut la bénédiction. Les responsabilités, comme on l'a déjà dit, ça ne l'intéressait pas. Mais la bénédiction, oui. Et l'attitude d'Isaac est assez intéressante, j'étais un petit peu étonnée. Isaac fut saisi d'un tremblement terrible. Bon, il était âgé, il était peut-être un peu malade, mais au point de trembler comme ça. Alors, je pense qu'il y a eu le choc émotionnel. D'un seul coup, ça a dû apparaître à son esprit. Aïe, je me suis plantée. La peur, probablement, de la réaction d'Ésaü, la déception, la colère. Mais mince, je me suis fait avoir, enfin c'est jamais très agréable. Et puis la honte d'avoir accordé sa bénédiction, alors qu'il avait un doute, il savait bien, parce qu'on avait remarqué que 5 fois il avait redemandé à Jacob, qui es-tu ? Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Enfin ça c'est mon interprétation du texte. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il vit un face-à-face violent avec la volonté de Dieu qu'il souhaitait contourner. D'un seul coup, Dieu lui montre, moi, j'ai fait ma volonté et pas la tienne. Je pense que le choc émotionnel, bien sûr, suffirait pour qu'il tremble, mais saisi d'un tremblement terrible, j'ai vérifié dans la traduction de Chouraki, c'est vraiment un gros tremblement, quelque chose de terrible. Je pense que d'un seul coup, il n'y a pas que l'émotionnel, il y a aussi spirituellement, il a un face-à-face violent avec la volonté de Dieu. C'est comme si Dieu disait, bah, tu as voulu me contourner, mais ce n'est pas possible. Et quelque part, il a une sorte de révélation de Dieu. Et je trouve qu'après ce tremblement, il va être remis sur les rails. C'est comme s'il était sorti des rails de son rôle de patriarche, rôle spirituel, de bénédiction. C'est comme si d'un seul coup, il était sorti. Et là, après ce tremblement, il revient sur les rails. Hein, comme un wagon, une locomotive qu'on remet sur les rails. Et vous allez voir, son attitude va être totalement différente. Enfin, c'est ma façon de voir le texte. Je crois qu'il vivait dans un certain favoritisme charnel, humain, puis toutes les promesses de Dieu, tout ça. Il avait fait tout un tas d'accommodements. Et il a un choc émotionnel, choc spirituel. C'est pour ça qu'il tremble. Et Dieu le remet sur ses rails. Alors, à quoi est-ce qu'on va voir ça ? Enfin, pour moi, hein, il est capable d'expliquer la situation à Ésaü qui se met à pleurer. Bon, les hommes du Moyen-Orient n'étaient pas du tout comme nos hommes occidentaux. Hein, un garçon ne pleure pas, on vous a dit ça depuis tout petit. Au Moyen-Orient, ce n'est pas du tout un problème. Donc, ils avaient le droit d'exprimer leurs émotions. Donc, quelques-uns disent, ah ben, Ésaü était très émotionnel. Oui, certainement, mais fois forcément plus que les autres personnes du Moyen-Orient. Il va expliquer la situation à Ésaü qui pleure. Il va être capable de lui affirmer que la bénédiction qui a été donnée demeure. On dirait que d'un seul coup, il a un petit peu plus d'autorité. C'est l'impression que ça donne, si vous regardez le texte. Hein, la façon dont il répond. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un grand cri, terriblement amer, et dit à son père, « Moi aussi, bénis-moi !» Il répondit, « Ton frère est venu par tromperie. » Analyse très claire de la situation, pour quelqu'un qui vient de vivre un tremblement comme ça, je trouve étonnant. Je m'attendrais plutôt à ce qu'il se lamente, comme faisaient les gens du Moyen-Orient. Hein. Oh non, pas du tout. Il a pris ta bénédiction. Il est catégorique. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé, etc. Et Isaac répond, j'ai fait de lui ton maître, je lui ai donné tous tes frères pour serviteurs. Il est méthodique, il a l'air bien dans sa peau. Je trouve qu'il est revenu sur ses rails. Il va confirmer cette bénédiction par la bénédiction qu'il va donner à Ésaü, qui est une bénédiction mitigée, hein, versets 39 et 40. Pour Ésaü, il va dire, la seule chose que je peux te dire, c'est « Tu habiteras loin des ressources de la terre, de la rosée du ciel et de la rosée d'en haut. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère. » Donc, il confirme. « Mais en errant librement ça et là, tu arracheras son joug de ton cou. » Donc, tu peux espérer te libérer du joug de ton frère. Pour une bénédiction, c'est vraiment mitigé. Hein. Tu survivras, quoi. Bon, c'était, et c'est le cas. Hein. Ça a été le cas des enfants d'Ésaü. Vous savez qu'après, c'est le peuple qu'on a appelé les Édomites. Et c'est un peuple qui a fait son chemin, qui s'est effectivement libéré du joug d'Israël et qui a donné, hélas, les Hérodes du Nouveau Testament. C'était des Iduméens. Donc, ce n'était pas glorieux. Hein. Si on connaît un peu la vie des Hérodes, ce n'était pas beau du tout, du tout. Alors, Ésaü, lui, il nous fait mal au cœur. Il sanglote. Oh, le pauvre! Et puis, c'est marrant parce qu'après avoir dit « je suis ton fils, ton aîné », il est capable de dire « moi aussi, bénis-moi mon père ». Et après, « est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté par deux fois ?» Il avait déjà pris mon droit d'aînesse. Tiens, tiens, vous voyez qu'il s'en souvenait très bien. Et maintenant, il a pris ma bénédiction. Et vous voyez que dans sa tête, c'était deux choses complètement différentes. Et c'est ça le drame d'Ésaü. Les responsabilités d'un côté, la bénédiction de l'autre. C'est très grave. C'est les deux aller ensemble. Il veut la bénédiction, mais il se moque totalement des responsabilités. Et pour nous aussi, on ne peut pas dissocier les deux. Alors, chaque fois qu'on a un appel, il y a une bénédiction qui en découle. Mais on ne peut pas avoir la bénédiction sans exécuter ce que Dieu nous demande. C'est important d'en prendre conscience. Il ne faut surtout pas faire comme Ésaü. Je veux bien la bénédiction, mais le boulot, les responsabilités, le nitty-gritty du quotidien. Oh et bon, c'est la tendance humaine. Alors, il fait mal au cœur, mais ce qui m'embête avec Ésaü, c'est qu'il ne se repent pas. Il ne va absolument pas assumer la responsabilité de sa bêtise. Mais c'est quand même lui qui a vendu son droit d'aînesse. Il avait le droit de dire à son frère, non mais tu rigoles, non? Tu veux pas ma chemise avec? Ça va pas, non? Je vais pas te vendre mon droit d'aînesse comme ça, c'est bien trop précieux. Je peux te donner autre chose, tu veux 10 chameaux, tu veux je sais pas quoi, mais pas ça. Jacob aurait quand même pu faire une bonne affaire. Il s'est laissé faire, parce qu'il s'en fichait en fait. Et il assume pas. Il constate qu'il s'est fait avoir deux fois, hein, la Bible dit, alors... Il m'a supplanté par deux fois, mais il n'assume pas. Il n'assume pas sa propre responsabilité. Et là, je pense que pour nous, j'y réfléchis, pour moi personnellement, pour nous tous, je pense qu'il nous arrive à tous, hélas, de faire des bêtises. Que ce soit une étourderie, c'est pas trop grave, une bêtise, une grosse erreur, ou la pire des idioties. On est tous à même d'en faire, mais que ce soit petit ou grand, pour Dieu, c'est un péché. Péché, ça veut dire manquer la cible. Vous savez, quand vous faites du tir à l'arc, vous avez la cible en face. Si vous êtes à côté, vous êtes à côté, il n'y a pas tortillé. Hein. Vous n'êtes pas dedans, point. Et même si vous êtes à 10 mètres de la cible, ou à 3 cm de la cible, elle est manquée. Donc, que ce soit une petite bêtise, ou une énorme bêtise aux yeux des hommes, la cible est manquée. C'est pour ça que j'aime bien la définition du péché, qui veut dire manquer la cible. Ésaü n'assume absolument pas sa part de responsabilité. Il aurait pu se repentir. Il aurait pu, c'était le moment ou jamais, de dire « Oh mon Dieu !» Au lieu de dire « Mon frère m'a supplanté deux fois », de dire « J'ai gaffé deux fois !» Non, il n'y a rien à faire. Il refuse de se repentir, je ne sais pas, ça ne lui vient même pas à l'esprit. Il aurait pu se repentir de son manque de respect pour le droit d'aînesse. Mais il se dépeint tout de suite comme la victime d'un frère intrigant. « Ah, c'est pas de ma faute, j'ai un frère, c'est une plaie. » C'est un intrigant, c'est un manipulateur, c'est un trompeur, voilà, il m'a supplanté deux fois. C'est lui. Non, c'est pas que lui. C'est sûr que Dieu va régler ses comptes avec Jacob, ça, vous allez le voir. Mais il avait sa responsabilité, Ésaü. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappée en regardant les nouvelles à CNN. Un des objectifs des psychologues qui sont envoyés là-bas, à Haïti, c'était que les Haïtiens qui ont souffert tout ce qu'ils ont souffert, ne rentrent pas dans un schéma de victime. Alors j'ai prêté l'oreille, j'ai dit, « Oh ben ça alors, c'est un peu gros quand même !» Et ils expliquaient longuement qu'il fallait surtout leur éviter de rentrer dans se sentir comme de pures victimes, parce qu'ils n'en sortiraient plus, et ils n'auraient plus envie de reconstruire. Ils baisseraient la tête en quelque sorte, on est des victimes, victimes de tout quoi, y compris des acts of God, comme on dit en anglais, des phénomènes atmosphériques, etc. Et ça m'a frappée, je me suis dit, tiens, c'est pas forcément des psychologues chrétiens, mais ils voient juste, hein, ils voient juste. Et Ésaü se dépeint comme une victime. Bon, mon frère, il m'a roulé deux fois, pauvre petit Ésaü. Et Dieu veut pas qu'on rentre dans ce... Et pourtant, alors là, quand on parle d'Haïti, hein, côté victime, on peut pas faire pire. Ésaü, c'est rien à côté. C'est tout un pays qui est victime, mais il ne faut pas qu'il garde la mentalité de la victime. Et ça m'a fait réfléchir. Combien de fois, dans nos vies, on va garder la mentalité de la victime? Et c'est là qu'on pêche, parce qu'en fait, là, on ne se repent plus. Ah, ben, c'est pas de ma faute, c'est mon frère. C'est lui. Il m'a pris mon droit d'aînesse. Au lieu de dire, Seigneur, pardon, j'aurais jamais dû accepter ce qu'il m'a proposé. On a notre part quand même. Et je reviens toujours à ce verset, vous savez que ça fait partie de mes marottes, celui qui cache ses transgressions, même à soi-même, parfois on peut se tromper soi-même. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que ce soit un petit truc, un grand truc, faisons pas comme Ésaü. C'est peut-être la faute de quelqu'un d'autre. Quelque part, Ésaü a été entraîné dans cette bêtise. Mais aussi longtemps, et hélas, il ne s'est jamais repenti, qu'il a dit, bah, c'est la faute de mon frère, il m'a supplanté par deux fois, voilà, moi je suis un pauvre type, je suis roulé d'un bout à l'autre. Il n'a pas pu changer. Et c'est tout un peuple après lui qui est resté dans cet esprit de victime. Et ça a donné des gens, les Hérodes étaient complètement paranoïaques. Ils ont été jusqu'à tuer leur propre famille. Hein, c'était quelques siècles après, mais c'est resté dans cette famille, hein. C'est resté parce qu'ils n'ont pas eu ce sentiment de dire « je me repens pour ma part ». Il ne s'agit pas de prendre la part de tout le monde, mais il faut déjà prendre la nôtre. Et je crois que c'est important. Moi, je suis toujours frappée par les gens qui sont allés en camp de concentration et qui sont sortis de cette mentalité de victime. Je ne sais pas comment ils ont fait, je suis admirative. Et ils disent bien que c'est leur foi qui leur a permis de sortir de là. La foi, la repentance, l'humilité, c'est ça qui nous permet de vivre. Ah, pauvre Ésaü. Alors, il va trouver la solution la plus simple. Ah bah oui, quand on ne veut pas se repentir, il y a une autre solution. C'est supprimer le problème. Il décide de tuer Jacob, mais comme il aime bien son papa, dès que son père meurt, pas avant. Il ne veut pas faire de chagrin à son père, visiblement. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment symptomatique chez lui. Le chagrin de sa mère, apparemment, ça ne le touche pas. Or, le droit d'aînesse, justement, était lié aux soins à apporter aux parents, et à la mère en particulier. Quand ils étaient âgés. Donc on voit bien que les responsabilités, hein, ça lui passait bien au-dessus de la tête. Si sa mère a du chagrin, c'est son problème, mais lui, il va tuer son frère. On voit bien qu'il n'était vraiment pas digne de garder ce droit d'aînesse. Ainsi, il se croit plus fort que Dieu, il pense même casser les paroles de Dieu, parce que les paroles de Dieu étaient, pour Jacob, extrêmement bonnes. Et il se dit, ben voilà, je tue le gars, comme ça la prophétie et les bénédictions de Dieu, elles vont tomber à l'eau. Il faut dire que l'attitude manipulatrice de Rebecca et de Jacob ne pouvait qu'attirer le pire chez Ésaü. C'est vrai aussi, hein. Il décide lui aussi à son tour de prendre les choses en main, puisque Rebecca les avait sérieusement prises en main. Et bien maintenant c'est son tour. Voyez, l'exemple vient d'en haut. Les bêtises des parents sont souvent recopiées par les enfants. Et maintenant il décide lui de prendre les choses en main à sa manière. Et tout ça aurait pu être évité si Jacob avait attendu que Dieu manifeste sa volonté. On en a déjà parlé. Rebecca, elle avait son petit réseau d'espions. On vivait sous des tentes, hein, faut pas oublier, on entendait tout. Et on va lire dans Genèse 27, verset 41. Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Ésaü se disait, les jours du deuil de mon père approchent. Après, je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, Ésaü, ton frère veut te tuer pour tirer vengeance de toi. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Enfin, encore une fois. Cette fois-ci, elle avait raison. Va te réfugier chez Laban, mon frère, à Haran. Tu habiteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'en soit retournée. Quand la colère de ton frère se sera détournée de toi et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, alors je te ferai revenir. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour ? Elle croit qu'on peut oublier comme ça. C'est la repentance qui change les choses, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Elle repart dans sa prise en main, notre Rebecca. Elle se démonte pas, elle a toujours des solutions. Elle minimise les choses. T'en fais pas, il va oublier. Et je te ferai revenir. C'est Dieu qui va le faire revenir. Rebecca sera plus là. Elle repart bien dans sa prise en main. Elle va voir Isaac avec une vérité qui en cache une autre. Elle ne lui parle pas du fait que son frère veut le tuer. Bon, j'imagine que Jacob se doute qu'il y aura un retour de flamme, mais elle ne lui dit pas. Hein. Elle lui dit simplement, je ne supporte pas les femmes païennes d'Ésaü, on le savait, on l'avait vu. Je souhaite que toi, tu ailles chez mon frère chercher une femme qui respecte le Dieu d'Abraham. Après tout, là, elle recopie le bon exemple d'Abraham, ce qu'il avait fait avec Isaac. Pour une fois, elle fait quelque chose de bien. C'est curieux, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière, qu'elle n'y ait pas pensé avant. Mais là, elle a raison. Elle reprend, elle aussi, je trouve, les rails de sa vocation de femme de patriarche, fidèle à Dieu. Tu vas chercher une femme qui ne soit pas comme ces femmes païennes, mais tu vas chercher une femme qui respecte le Dieu d'Abraham. Donc, elle prend modèle sur Abraham, mais elle aussi, quelque part, elle reprend les rails, les bons rails. Ésaü, le pauvre Ésaü, n'a toujours rien compris. Et il me fait mal au cœur, Ésaü, parce qu'il est à côté de la bénédiction. C'est aussi un petit-fils d'Abraham. C'est vraiment triste. Mais il n'a toujours rien compris à ce qui se passe. Il va chercher à faire plaisir à Isaac. Parce que dans sa petite tête, il s'est dit, voilà, alors, pour faire plaisir à mon père, là, le Jacob, il va partir chercher une femme qui adore le même Dieu qu'Abraham. Bon, c'est pas compliqué. Il faut épouser une fille de la famille, on va leur faire plaisir. Et il va épouser une fille d'Ismaël, qui est aussi petite fille d'Abraham, du côté de son père. Puis il se dit, voilà, je vais leur faire plaisir maintenant, puisque c'est mes femmes qui ne supportent pas. Mais il les a gardées quand même, mais bon, il en a une de plus. Et c'est ça qui est désolant chez Ésaü, il ne comprend rien. Il ne comprend rien parce qu'il est dans l'être, il est dans le faire, et pas dans l'être. Il est dans le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à papa? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la bénédiction? Qu'est-ce que je peux faire? Mais il ne règle pas du tout l'être. C'est qu'est-ce que je peux être qui importe à Dieu. Et c'est toute la différence entre la loi et l'esprit, entre la lettre et l'esprit. Hein, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Aussi ce verset que j'aime beaucoup, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et lui, il est toujours branché, je regarde à ce qui frappe les yeux. Allez, j'épouse une fille d'Ismaël, ils vont être contents. Et je pensais à ce verset parce qu'on peut se poser la question, Seigneur, quelles sont mes motivations profondes? Quelles sont mes pensées? Est-ce que je peux aussi arriver à me mentir à moi-même, comme Ésaü, et tomber dans le faire au lieu de l'être? Et j'ai pensé à cette prière de David, parce que je réfléchissais à ça en préparant le message. C'est dans le psaume 139, verset 23. C'était un petit chant, en fait, qui m'est revenu à l'esprit, donc je l'ai cherché à la concordance, c'est inspiré du psaume 139, verset 23. « Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. » Une autre version qui dit « mes pensées. » Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est important parce que je crois qu'on peut se mentir à soi-même. On peut se convaincre soi-même de tout un tas de mensonges. On peut se réfugier dans le faire pour être un bon chrétien, dans le faire pour faire plaisir aux parents. Imaginez qu'il y en a qui aiment bien faire plaisir à leurs parents, ça existe. Hein? Et on peut se réfugier dans le faire, dans toutes ces choses. Et puis, quelles sont nos motivations? Quel est notre cœur? Eh bien, on peut se mentir à soi-même. Et en réfléchissant à ça, je me dis, mais alors Seigneur, on est mal pris là. Si on peut se tromper soi-même. Et c'est là que ce petit chant m'est venu à l'esprit. Je vois, il y en a qui le connaissent, et je crois Van Den Hogen qui avait composé là-dessus. Examine-moi à fond et connais mon cœur, Seigneur. Moi, je peux me tromper moi-même. Je peux me mentir à moi-même. Je peux avoir du mal à me repentir parce que je me mens à moi-même, parce que je me justifie, parce que c'est la faute des autres. Vous savez, à l'école, à chaque fois que je dis à un élève, écoute, si tu continues, je te mets à la porte, là, pour prendre l'air 5 minutes, mais c'est pas moi, madame, c'est toujours l'autre. C'est étonnant, hein. Et quand c'est une fille, c'est intéressant. Je dis, c'est marrant parce que moi, j'ai entendu une voix de garçon, mais je ne savais pas que les filles avaient des voix de garçon. Mais ils sont capables de dire de ces trucs. Ils se mentent à eux-mêmes, ils ont l'air très convaincus en plus. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et je pense que c'est important, parce qu'on peut se mentir à soi-même, de dire, Seigneur, sonde-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Si seulement Ésaü avait fait ça. Et je crois ça vaut la peine de se poser la question. Au quotidien. Seigneur, là je fonce, mais regarde si je me trompe, regarde si je me mens à moi-même, moi je ne suis pas capable. Ah, c'est dur de dire ça, c'est un peu humiliant, mais c'est la seule solution pour être sur le droit chemin. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça fait peur quand même de se dire, oh, je pourrais me tromper moi-même, je pourrais m'illusionner, quoi. Mais on a un garde-fou, le Seigneur peut nous examiner et nous remettre sur la voie droite. Et je pense que c'est une prière qu'on doit faire, souvent. Parce que le diable, c'est le père du mensonge, il ne faut pas l'oublier. Alors notre Ésaü, il n'a toujours rien compris, mais bon, il épouse une fille d'Ismaël, et ça ne change rien. Jacob, lui, est prêt à partir, Isaac va le bénir. Et là, on va lire la bénédiction, parce que je la trouve plus proche, parce que cette fois-ci, il a tout son cœur dedans. La dernière fois, il était un peu dans le doute, là, il va pouvoir y aller à fond. Il va répéter les ordres d'Abraham, il est sur les rails de ses responsabilités. Cette fois-ci, il n'a pas demandé de repas, il bénit. C'est intéressant, il est branché comme il faut. Donc, le chapitre 28, Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas pour femme une cananéenne. » Eh bien, il était bien temps de lui dire, il avait 40 ans, entre guillemets. « Va à Padan Aram, chez Bethuel, le père de ta mère. Là-bas, prends une femme, une des filles de Laban, le frère de ta mère. » On retrouve ce qu'Abraham avait dit à Isaac. Ah, il est sur les rails. Il a tout compris, là, Isaac. Ça a été long, mais bon. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, que tu deviennes une assemblée de peuples. Même bénédiction qu'Abraham. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi, à ta descendance avec toi, afin que tu prennes possession du pays où tu séjournes en immigré, ce pays que Dieu a donné à Abraham. Il rappelle les bénédictions d'Abraham par rapport au pays d'Israël. Isaac fit donc partir Jacob, qui se rendit à Padan Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, etc. Et Jacob va partir. Alors là, les enfants, je voudrais vous imaginer un voyage à cette époque. Curieusement, je n'ai pas l'impression qu'il est parti avec autant de monde qu'Abraham. Abraham, visiblement, est parti avec des caravanes de chapeaux, d'animaux, etc. Enfin, ils emmenaient le frigo avec eux, hein, c'était les animaux sur pattes. C'était plus sage, ils pouvaient manger en route, et puis on les tuait au fur et à mesure, on en avait besoin pour manger. Là, il semble que Jacob, il n'ait pas emmené grand-chose. Parce que la Bible nous dit que là, au moment de passer la nuit, il a pris une pierre pour mettre sa tête dessus. Donc, il ne semble pas qu'il ait emmené tout un tas de tentes et de serviteurs, comme Abraham. Probablement quand même, un ou deux serviteurs, c'est quand même le fils de l'émir local. Mais il ne part pas avec grand-chose, hein, visiblement. On le voit aussi au moment de donner la dot pour sa femme, il a rien. Donc, il part, il n'a pas grand-chose. Alors, c'est une région désertique avec des petits buissons un peu secs. Il avait une bonne route à faire, à peu près plus de 400 kilomètres. À pied, vous savez, c'est long, hein. Vous savez qu'un soldat, quand il marche bien, avec son sac à dos, il fait environ 5 kilomètres à l'heure, on compte dans l'armée. 5. Donc là, il avait 400 km à faire et dans une zone assez désertique, très chaude. Ça ne peut pas être facile. Hein. Et il n'y avait pas que ça. Il quittait tout ce qu'il aimait. Maman, important. Papa, quand même. Hein. Un lieu qu'il aimait, un métier qu'il aimait. C'était un berger, c'était un éleveur jusqu'au fond des tripes. Il a quand même beaucoup de chagrin en partant. Il est conscient de la haine de son frère, même s'il ne sait pas que son frère a envie de le tuer, mais quand même, il n'est pas idiot. Hein. Donc, il y a quand même une peur. La preuve, c'est que cette peur-là, on va la retrouver encore 20 ans après, chevillée au corps. C'était un voyage long et dangereux, 400 km, probablement un petit peu plus, et puis vers l'inconnu total. Il n'y a que sa mère qui connaissait l'endroit. Hein. Même Isaac n'y était pas allé. C'était un serviteur qui était allé chercher Rebecca. Donc, comment il allait être accueilli, etc. Est-ce qu'il avait des nouvelles de cette partie de la famille? Peut-être par les marchands, vous savez, les caravanes de marchands qui vendaient les épices, la soie, etc. Peut-être. Et puis, il y a un autre problème. Il part comme Abraham, d'accord, avec beaucoup moins de monde, sauf que lui, il fait le voyage à l'envers. Il s'éloigne géographiquement du pays promis. Et c'est de sa faute. Alors, est-ce qu'il peut encore être l'héritier de la promesse? Il peut se dire, bah, c'est bien joli, les deux bénédictions de papa, là, mais moi, me le voilà parti à l'autre bout, hein, tout à fait dans l'autre sens. Hein, le pays d'Israël est là, Aaron est là-bas. Il va dans l'autre sens. Est-ce qu'il peut encore être l'héritier de la promesse? Et j'ai pensé à ça, parce que je trouve ça tellement bizarre, hein, que Dieu lui donne la promesse avant de partir. Tu vas à ce pays dans lequel vous vivez comme des immigrés, il t'appartiendra à toi, à tes descendants. Et quelle est la chose qu'il fait juste après? Il tourne le dos et il va dans l'autre sens. Parce qu'il n'a pas le choix. Et je me suis dit, est-ce que dans nos vies, parfois, que ce soit de notre faute ou pas de notre faute, il nous arrive qu'on tourne le dos à ce que Dieu semblait nous avoir promis? Est-ce que ça ne vous est pas arrivé ou est-ce que vous n'êtes pas encore dans ce cas? Et je pense à Jeunesse en mission avec son premier bateau. Dieu promet, ils arrivent à avoir ce bateau, puis au dernier moment, il faut le revendre. Mais Seigneur, t'avais promis, t'avais pourvu, et puis on va complètement dans l'autre sens. Eh oui, il y a des moments où ça arrive. Dieu a ses raisons. Dieu avait ses raisons dans ce cas précis. Et j'ai pensé à vous, les jeunes hommes déjà. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je fais à étudier la littérature, l'électronique, ou je ne sais quoi, ou le commerce, alors que moi, je voulais être utile à Dieu, je voulais le servir. Mais qu'est-ce que je fais à l'école ? Avec ces profs qui sont zarbi et puis tout le reste. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je voudrais servir Dieu, je voudrais être utile au royaume de Dieu, j'aime le Seigneur. Et puis je dois supporter, je dois apprendre des matières qui ne m'intéressent pas du tout, style la philosophie ou les maths, ça dépend des gens. Hein. Et qu'est-ce que je fais là? Alors, il y a un élément de réponse. Parfois, on peut avoir l'impression de tourner le dos à ce que Dieu nous promet. Mais non, ce n'est jamais le cas. Dieu nous demande d'être fidèles dans les petites choses. Et pendant cette période où vous tournez apparemment le dos à ce que vous vouliez ou à ce que Dieu vous avait promis, Dieu vous apprend la fidélité. C'est une école de formation. Rappelez-vous que Jésus, je l'ai dit 36 fois, vous savez bien que je suis gaga, Jésus a attendu 30 ans avant de rentrer dans son ministère. Et qu'est-ce qu'il a appris pendant ces 30 ans? La théologie? Non, la charpente. Le travail de charpentier. Ha ! Il a appris à être régulier, à être persévérant, à se donner de la peine, à être précis, à être à l'écoute des clients. Pas drôle, même à cette époque-là. Donc, fidèle dans les petites choses. Qu'est-ce que Dieu vous demande aussi pendant ce temps d'école? Eh bien, il vous demande d'être ambassadeur de Christ là où vous êtes. Rappelez-vous, vous êtes la lumière, le sel, et comme dit Jésus, hein, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on peut saler? Des serviteurs de Dieu là où vous êtes. Rappelez-vous, comme a dit Sherman, on est à plein temps pour le Seigneur. À l'école aussi, à la fac aussi, on est à plein temps pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'il vous demande aussi? Dans cette école de formation, vous apprenez la patience. Oh, la pire des choses, hein, la patience. La pire des choses. Le relationnel avec les gens. Il vous faut supporter une classe entière de gens encore plus arbitres les uns que les autres. Il faut de la patience. Il faut de l'amour aussi. On travaille le relationnel, on travaille aussi l'esprit de service pendant ces années-là. Aider les autres en difficulté. Et un chrétien dans une classe, on peut le remarquer assez vite. Parce que c'est quand les autres ont des difficultés, il va les aider. Ça se voit. On n'est pas plus grand que notre maître. Ces années de formation-là, on ne peut pas cracher dessus. Alors, j'ai pensé à un autre exemple qui va bien parler aux demoiselles et aux dames, aux jeunes femmes. Je prends l'exemple d'une jeune femme qui a à cœur de servir le Seigneur. Par exemple, un jour, elle s'est levée à un appel, elle dit « Est-ce que quelqu'un veut servir le Seigneur ?» Elle va se marier avec un chrétien dans la volonté de Dieu. Et puis un jour, elle se retrouve sous une montagne de couches et de biberons, avec du linge à arranger, avec un tas de ménage, des courses à faire. Elle n'a même plus le temps d'aller à la réunion de prière. Elle essaie d'écouter le culte, mais elle en a juste un petit quart. Puis elle se dit, franchement, mais qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que j'en suis? Est-ce qu'elle n'a pas l'impression de tourner le dos à son appel? Moi, je suis passée par là, je sais de quoi je parle. On se dit, mais Seigneur, j'étais appelée à te servir, à faire des choses pour toi, de l'évangélisation, etc. Et puis voilà, regarde où je suis réduite, je ne peux même plus aller à la réunion de prière. Alors moi, je voudrais bien vous dire quelque chose de très, très, très important. Et les jeunes filles, écoutez bien aussi. C'est votre voyage de Jacob. Vous allez apparemment, effectivement, dans l'autre sens par rapport à ce que Dieu vous avait demandé. Mais c'est votre école de formation. C'est là que vous allez apprendre des tas de choses qui vous seront hyper utiles dans la suite. Oui. Je me souviens, moi, quand j'étais dans ce cas-là, d'avoir parlé avec un de mes amis, qui est cardiologue maintenant. Il était étudiant à l'époque. Il me dit, Michel, il raisonnait déjà très bien, Benoît. Je ne sais pas quel âge il avait, mais il avait 20 ans, 21 ans. Non, 25 ans peut-être quand même, parce que j'avais déjà les enfants. Et il me dit, Michel, t'inquiète pas, c'est un investissement à long terme. C'est un investissement à long terme. Et c'est à long terme qu'on voit les fruits de cette période où on fait le voyage de Jacob. Rappelez-vous ce que Charman a dit, le plus difficile, c'est d'être une mère au foyer qui s'occupe de ses enfants. C'est bien plus difficile que d'être businesswoman, comme elle est elle d'ailleurs. Je me souviens André à cette époque qui m'encourageait en me disant « Pendant cette période, tu es comme un petit chef d'entreprise. » Quelle entreprise? La famille. Tu dois gérer plein de choses comme un chef d'entreprise. L'approvisionnement, l'organisation de la journée, etc. Les responsabilités des uns et des autres. Et c'est une période de formation très importante parce que Dieu vous confie, pendant cette période-là, ce qu'il a de plus précieux. Pas l'évangélisation du monde. Vous savez ce qui est le plus précieux pour Dieu? C'est une vie humaine. Et qu'est-ce que Dieu vous confie? Il vous donne d'élever, de travailler à la formation de ce qu'il a de plus précieux, des êtres humains. Tellement précieux que lui-même, il a accepté d'y passer. Il n'était pas obligé, hein, il pouvait arriver du ciel, flap, comme ça. Hein. Comme Élie est parti, il pouvait bien venir dans l'autre sens. Hein. Mais il a accepté de passer par ce stade de bébé parce que c'était important. Ça parlait au cœur des humains. Et Dieu vous confie ce qu'il a de plus précieux. La formation d'autres êtres humains. Alors vous savez, des enfants, on peut les élever avec soin, on peut les élever efficacement. Comme dit Gad Elmaleh, je ne sais pas si vous avez entendu son sketch sur les blonds, mais j'aime beaucoup. Il y a des gens comme ça. Oh, 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 oh. Oui, merci Seigneur. Mais on peut aussi former et construire avec l'aide du Seigneur des hommes et des femmes de Dieu. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, bien sûr, si vous regardez que l'aspect élever des enfants, on peut élever des poneys, des chiens, des lapins, etc. Et on peut en prendre soin. Non, non, mais on peut en prendre soin très efficacement. Et être vraiment gentil avec eux. Moi, j'ai ma petite voisine, elle a un magnifique poney qui est en bas de chez moi. Elle le brosse, elle en prend soin, elle est hyper responsable. Elle a quoi, 10-11 ans, mais elle s'occupe bien de son poney. Il est heureux, le petit poney. Mais on peut aussi élever des enfants en sachant qu'on forme et qu'on construit un homme et une femme de Dieu. Et là, c'est complètement différent. Et là, les montagnes de couches, les tas de biberons, le ménage, les courses, etc., ça prend une autre dimension. Ce sont des accessoires pour former un homme et une femme de Dieu. C'est les premiers accessoires. Après, heureusement, on n'en reste pas là toute la vie. Heureusement, j'ai horreur des biberons, moi en plus. Mais on est appelé à construire avec Dieu pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Et ça, c'est important. Et pendant ce temps-là, on peut être des témoins. Témoins auprès des voisines, à l'école. Je n'ai jamais tant témoigné dans mon village que quand j'avais des enfants. Parce que j'étais tous les jours devant la porte de l'école. Et j'ai emmené des gens quand il y a eu la campagne Billy Graham. J'ai eu des occasions de témoigner que je n'ai pas forcément maintenant. Hein. Et on apprend beaucoup de choses qui vont être après utiles dans le ministère. Et j'ai repensé à une femme que j'ai eu la chance de revoir sur les télés chrétiennes il y a quelques années. Je crois que Julie l'aime bien aussi, c'est Madame Briscoe. Quand j'ai connu son mari, qui était jeune pasteur en Angleterre, elle, on ne la voyait pas. Elle devait être noyée avec ses mouflets. Je savais bien qu'il y avait une Madame Briscoe, mais on ne la voyait pas. Et quand je l'ai vue à la télé, j'ai dit, waouh ! Qu'est-ce qu'elle vous apporte quand elle prêche, cette femme ? Je reste, j'écoute. J'écouterai des heures. À chaque fois que ça s'arrêtait, je dis, pourquoi ils font des trucs si courts ? Pourquoi est-ce qu'ils coupent, là, maintenant ? Elle est extraordinaire. Et pourquoi ? Parce qu'elle a accepté son temps de formation et elle l'a fait avec cœur. Parce que ses enfants aujourd'hui servent le Seigneur. Parce qu'elle a des tas de choses à transmettre. Parce qu'elle a appris, elle a accepté ce temps où elle avait l'air de tourner le dos à son appel. Et quand on la voit, on voit vraiment qu'elle a un appel, Madame Briscoe, hein, quand elle prêche. Mais elle a accepté ce temps où elle avait l'air de tourner le dos à son appel. Où elle a fait des choses vulgairement matérielles, apparemment. Mais où elle a transmis beaucoup de choses. Et cette femme, j'admire énormément. Et j'aimerais bien, ça remarche ma télé, parce que j'aimerais bien la réécouter. Voilà. Donc, c'était pour vous dire, aussi bien les jeunes filles ou garçons, qu'il peut y avoir une période dans votre vie où vous avez l'impression que vous tournez le dos à votre appel. Non pas que vous tournez le dos à Dieu, mais à votre appel. Vous inquiétez pas. Si c'est un voyage de Jacob, il n'y a pas de souci. Priez pour savoir où vous êtes. Donc, Jacob va entamer un voyage spirituel qui commence après 60 kilomètres. C'est sa première rencontre avec Dieu. Rencontre personnelle. Ah ! Il était temps, depuis le temps qu'on dit qu'il n'avait pas de relation personnelle avec Dieu, hein, vous allez dire, Michel, elle commence à se répéter. Je vais pouvoir arrêter. Il va avoir sa première rencontre avec Dieu. Et c'est là qu'il va avoir son premier temps d'adoration. Alors, vous imaginez la scène. C'est probablement la deuxième nuit, parce que c'est à peu près à 60 kilomètres. Je ne pense pas qu'il faisait plus de 60 kilomètres en une journée. C'était un peu trop, même en se levant de bonne heure. Ce n'était pas des routes goudronnées. Même s'il montait sur son petit âne, les ânes, ils ne font pas de grande vitesse. Hein, bon. Donc, on va dire que c'était la deuxième nuit. Rappelez-vous, Jacob est un fugitif. Il a perdu tous ses appuis. Papa, maman, les serviteurs, les troupeaux, c'était sa vie. Il n'a pas beaucoup de nourriture, j'imagine. Il a de l'huile, visiblement, sur lui. Donc, il a dû emmener ce qu'il faut, mais bon. Il n'a pas d'argent, on le voit quand il arrive à Paddan Aram. Et puis, la sécurité. Réfléchissez un tout petit peu. Il y a des animaux sauvages. On n'y pense plus maintenant. Mais allez vous promener déjà dans les forêts de séquoia, quand vous entendez des branches craquer, vous n'êtes pas fiers. Parce qu'il y a des ours, et j'aime pas ça. Ça me gâche le plaisir des séquoias. Et il y a les animaux sauvages, vous savez, ça fait peur hein, quand on se promène. Vous vous trouvez face à un ours ou un lion de montagne, et il y en avait à cette époque-là, hein, des lions de montagne en Israël. Il est loin du confort du camp. Il ne peut plus dire, je suis le fils du patron, hein, dites les serviteurs là, vous me faites un feu, et puis là, vous allez voir le troupeau à droite, et c'est fini. Il n'a plus rien, il n'a plus d'appui. Et puis, il fait nuit. C'est dans une région qu'il ne connaît pas. Alors déjà, je ne sais pas si vous aimeriez être tout seul la nuit dans une rue de votre ville. Mais tout seul la nuit dans un endroit désert et que vous ne connaissez pas, ce n'est pas drôle. Il y a des dangers. Alors j'ai parlé des animaux, mais il y a aussi les brigands qui se promenaient, hein, qui écumaient pour voler des troupeaux, bien sûr. Hein. Il y avait des Cananéens qui n'étaient pas gentils. Et puis le risque qu'Ésaü se dise, si je le rattrapais et que je lui fais son affaire derrière un buisson, ce n'est pas impossible. Donc il avait tout ça sur son cœur. Donc vous imaginez Jacob, c'est lourd. Et puis sa tête maintenant, elle est pleine de questions. Mais pourquoi il faut fuir si je suis vraiment l'héritier de la promesse faite à Abraham ? Est-ce que la bénédiction va me rester acquise après toutes les bêtises que j'ai faites ? Quel sera mon avenir ? Est-ce que je vais trouver la femme qu'il me faut ? Est-ce que ça va aller ? Est-ce que je vais pouvoir la ramener ? Quand est-ce que je vais pouvoir revenir ? Et une question à laquelle vous ne pensez pas, mais qui ressort dans le texte, Dieu est-il absent de cette région. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gens croyaient que Dieu était lié à certains endroits. Et ce n'était pas encore bien bien clair pour les patriarches par moment que Dieu est partout. Et pour eux, Dieu était lié à certains endroits. Et on va le voir après, ça a l'air d'être le cas. Donc il doit se dire, mais 60 km de chez papa, Isaac, qui a un Dieu fidèle, est-ce qu'il est encore là ? Pas évident, hein ? Pour nous, c'est tellement évident. Mais remettez-vous à sa place. Il n'avait aucun texte biblique, hein, rien, rien, que les histoires de grand-père Abraham et les histoires de papa, Isaac. Il savait énormément de choses sur Dieu, mais il ne connaissait pas encore Yahvé comme son Dieu. Vous vous rappelez, au moment de la bénédiction, il a dit « ton Dieu », il n'a pas dit « mon Dieu ». Alors, n'attendez pas, les enfants, d'être dans un lieu désagréable comme Jacob pour chercher Dieu, hein. Ce serait dommage. Il est seul, visiblement il n'a pas grand équipement puisqu'il prend une pierre pour poser sa tête. On repense à Jésus, hein, qui n'avait même pas une pierre. Ça. Il s'endort et il rêve. Et chapitre 28, verset 10, vous allez voir de quoi il rêve. Il fit un rêve, un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui et il lui dit « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai. » Ah, ah, il répète la promesse. « À toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. » Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai vers cette terre. Ah, vous voyez qu'il répond aux questions. Car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je t'ai dit. Waouh ! Il rêve d'un escalier. Alors ça, vraiment, c'est assez imprévu, c'est pas le genre de rêve qu'on fait tous les jours. Pour les enfants, j'ai un petit dessin, ça peut aider les grands aussi. Un escalier qui va de la terre au ciel. Alors, c'est un lien, c'est un moyen de communication entre Dieu et les siens sur terre. C'est une porte ouverte. C'est-à-dire que la première chose que Dieu va faire, il va casser son isolement. Non, tu n'es pas seul. Si vous vous croyez seul dans une situation difficile, je crois que c'est le premier message que Dieu va vous donner. C'est celui qu'il a donné aussi à Élie. Non, tu n'es pas seul. Il y en a 5000 qui... Mais là, il lui dit autre chose. Il dit, tu n'es pas seul, moi je veille sur toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et je crois que c'est la première chose qu'on a besoin d'entendre quand on est dans une difficulté. Non, tu n'es pas seul. Parce que la première chose que le diable, lui, vous savez que c'est un grand menteur, la première chose qu'il va vous dire, bah, t'es tout seul à penser ça, t'es tout seul à faire ça, il n'y a qu'à toi qu'il arrive des trucs idiots comme ça, il n'y a que toi qui es capable de faire des bêtises pareilles, il n'y a que toi qui... Non, tu n'es pas seul. Première chose, c'est important. Et puis, il lui montre qu'il y a une porte ouverte vers le ciel. Et ça, pour Jacob, c'était super. Alors vous, ça vous semble évident, à cause de Jésus, à cause de la croix. Mais pour Jacob, c'est super, pas évident du tout. Ah, il y a une porte ouverte. Et vous remarquez qu'il y a des anges qui descendent et qui montent. Ça veut dire qu'il y a un passage permanent des serviteurs de Dieu. Alors, je vais vous donner quand même le verset biblique qui explique qui sont les anges. Ne sont-ils pas, c'est Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits serviteurs envoyés pour exercer leur ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Ce ne sont pas des petits machins avec des jolies petites ailes et des joues et des arcs et des flèches et je ne sais quoi. Non, 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 non. Les anges, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont en quelque sorte programmés pour exercer leur service en faveur de ceux qui vont hériter le salut. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc ils existent, ils sont hyper discrets. La Bible dit de ne jamais les prier. Je vous le dis en passant parce qu'il y a des gens qui commencent à faire ce genre de choses dans la société. Et donc, attention, on n'a pas du tout à chercher le contact avec eux. Ils sont là pour nous servir, nous protéger, le cas éventuel. J'aurai des tas d'histoires à vous raconter, mais ça sera réservé aux réunions de dames. Et c'est assez spectaculaire ce que parfois Dieu peut faire au travers des anges. Donc, il lui montre, la porte est ouverte, tu n'es pas seul. Et il y a une communication permanente entre le ciel et la terre. Déjà à cette époque-là, avant que Jésus vienne, nous on sait que ce n'est pas un escalier, c'est une croix, hein, qui nous relie en permanence avec le Seigneur. On n'est pas seul dans nos difficultés, dans nos chagrins, dans les choses incompréhensibles, dans nos bêtises. On n'est pas seul, Dieu est là pour nous dire, allez, repens-toi, allez, demande pardon, allez, relève-toi. Hein, Dieu n'est pas là pour nous dire, t'es par terre, alors je te marche dessus, ça c'est le diable. Le diable, il s'arrange pour vous faire tomber, il s'arrange pour vous entraîner dans un truc idiot, et une fois que vous êtes par terre, il vous marche dessus. Et vous fait des reproches de façon à ce que vous puissiez vous culpabiliser. Vous connaissez le système ? Je pense qu'on y est tous passés. Hein. Il vous pousse à faire une bêtise, une fois que la bêtise est faite, il vous marche dessus, il vous dit, ha ha, t'as vu, hein, pour un chrétien, chapeau, hein, t'es nul. Il n'assume pas ses responsabilités, lui. Hein. C'est lui qui vous met par terre, et après, il vous retombe dessus. Mais Dieu, ce n'est pas du tout ça. C'est, relève-toi, je suis là, il y a une porte ouverte, il y a une circulation permanente avec le ciel. Ah, c'est quand même encourageant. Et Dieu va parler à Jacob. Alors il va se présenter très clairement. Je suis le Seigneur, Yahvé, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et il ne dit pas encore ton Dieu. Hein. Il présente le lieu, la terre sur laquelle tu te tiens, je te la donnerai. Il lui parle de sa descendance, donc ça prouve qu'il va visiblement trouver une femme. Qui va être étendue aussi, cette descendance va être étendue sur tout le pays, après il sera en bénédiction. Tout ça, c'était des promesses qui avaient déjà été données à Abraham. Alors vous l'avez dans le petit jeu, vous ferez la distinction entre les promesses qui étaient données à Abraham et à Jacob, et celles qui vont être données que à Jacob. Voilà celle qui est donnée à Jacob, la plus importante, je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ça, c'est formidable. Il est avec nous, mais tellement fortement que c'est comme s'il était à notre place. Il y a une histoire atroce là-dessus à propos des camps de concentration où les gens étaient amenés à regarder une exécution assez horrible, que je ne décris pas, ce n'est pas le lieu. Et quelqu'un dans la foule des détenus disait « Et Dieu, où il est dans tout ça ?» Et quelqu'un qui aimait le Seigneur s'est tourné et a dit « Il est là, accroché avec la personne qui est torturée. » Très bonne réponse. Il est là, dans nos souffrances. Il était là à Haïti, avec tous ceux qui étaient ensevelis. Il a été là jusqu'au bout avec eux. Ça, on a du mal à le comprendre. Mais j'en suis sûre. C'est ce que la Bible dit. Je suis avec toi. Dans toutes nos difficultés, il est là. La deuxième promesse, je te garderai partout où tu iras. Ah ben, vous savez, nous, ça nous semble bon, ça va, hein. Sur les routes, il y a la police, s'il y a un problème, il y a les hôpitaux, etc. Il n'y avait rien là-bas. Il y avait des bêtes sauvages, le risque de brigands, le risque d'insolation, enfin, tous les risques possibles, je te garderai partout où tu iras. Et le plus important pour quelqu'un qui tourne le dos à sa promesse, je te ramènerai sur cette terre. Ce n'est pas maman qui va te ramener. Parce qu'elle avait dit, hein, je te ferai revenir, tu parles. Elle n'était plus là pour le faire. Mais moi, ton Dieu, je te ramènerai sur cette terre. Je ne t'abandonnerai pas. Vous savez, je pense qu'il devait se dire parfois, oh, Dieu va m'abandonner avec toutes les bêtises que j'ai faites. Non, je ne t'abandonnerai pas. Et même si on a fait des bêtises, même si on n'a pas une vie chrétienne comme on sait qu'on devrait l'avoir, il faut toujours être assuré que Dieu ne nous abandonne pas. Ça ne veut pas dire qu'il nous donne raison. Il va nous faire passer par l'école, il va nous apprendre des tas de choses, il va nous donner une petite raclée de temps en temps si nécessaire, mais il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Jamais. C'est très important. C'est spécifique pour Jacob, et je crois que comme c'est l'apôtre Paul, je crois qu'il dit que ces choses ont été données pour nous servir d'exemple, nous aussi, c'est spécifique pour nous. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai là où tu dois être. Là où est ta promesse, là où est ton service, là où est ton ministère, je ne sais pas. Et je ne t'abandonnerai pas. Dieu répond à toutes les questions bien naturelles de Jacob. Et là, on va assister au démarrage d'une relation personnelle. Mais je vous rappelle, qui a initié la relation ? Contrairement à toutes les religions du monde où l'homme essaie d'atteindre Dieu et de lui plaire, là, on a l'inverse. Dieu parle à l'homme, lui montre une image, lui parle et lui montre que c'est lui qui tend les mains. Et c'est lui qui initie la relation. C'est pour ça que je crois à la Bible. Ce n'est pas le travail de l'imagination de l'homme, parce que l'imagination naturelle de l'homme, vous le trouvez dans toutes les religions du monde. Comment plaire à ce Dieu ? Comment l'apaiser ? Comment faire ? Et là, c'est l'inverse. C'est Dieu. Et c'est logique. qui se tend vers l'homme. Enfin, c'est logique quand on connaît le Seigneur. Et c'est l'initiative de Dieu. Ce n'est pas l'initiative de Jacob. Là, on n'est plus dans la religion. On est dans la relation. La promesse est la même à vous, enfants de chrétiens. Dieu a fait alliance avec vos parents. Mais ce n'est pas héréditaire. Dieu a des enfants, il n'a pas de petits-enfants. Il n'est jamais grand-père. Dieu n'a que des enfants. Donc il a fait alliance avec vos parents, il va refaire une alliance personnelle avec vous. Et si vous n'avez pas conscience d'avoir fait une alliance personnelle avec Dieu, cherchez-le et demandez cette alliance personnelle. Demandez à le rencontrer personnellement. C'est capital. Jacob y est passé, il avait 40 ans, mais jamais trop tard pour bien faire. Et Jacob va avoir 3 réactions, mais je pense que je ne vais pas pouvoir vous les donner maintenant parce qu'il est l'heure. Le Seigneur est en son lieu et je ne le savais pas, que ce lieu est redoutable. Et puis, premier acte d'adoration, enfin 4 exactement, parce qu'après il va faire un vœu à Dieu. Et c'est là-dessus qu'on va un peu travailler, parce qu'il y a 2 façons différentes de voir ce vœu. Mais je pense que, si je ne veux pas me faire tirer les oreilles, je vais m'arrêter là. Mais ceci étant, restons sur les promesses pour cette semaine, dans vos difficultés de la semaine, dans vos soucis, dans vos questions. Redites-vous bien ces promesses. Tu n'es pas seul, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai sur cette terre, je te ramènerai vers ta promesse, et puis je ne t'abandonnerai pas. Gardons ça dans le cœur. Et comme on disait tout à l'heure, si vous êtes conscient que votre vie ne plaît pas à Dieu pour certaines choses, hein, on en est tous là, eh bien n'hésitons pas à demander pardon à Dieu. N'hésitons pas à dire « Seigneur, je confesse, celui qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus est celui qui confesse ses transgressions aussi ». Il est béni, il obtient miséricorde. Amen.